Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Saraméa. Bonjour Jean.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, quelque chose d'original. Il m'en est venu l'idée en regardant quelques articles là au début de cette année sur les deux doyennes de l'humanité. L'une est née début janvier 1904, elle est japonaise, elle va fort bien et elle a donc déjà 117 ans. Et
Waouh.
l'autre, eh bien, elle vit à Toulon, donc le grand port varois et méditerranéen. Elle va avoir, on le lui souhaite, 117 ans le 11 février. C'est une sœur qui vit en EHPAD, qui n'y voit plus, mais qui est pleine de dynamisme, qui a fait savoir qu'elle s'intéressait à l'actualité et qu'elle souhaitait bien rejoindre Jeanne Calment dans le record planétaire. Alors, que s'est-il passé en
1904.
1904, l'année de naissance de nos deux doyennes? Alors, au niveau international, quelque chose que l'on a bien oublié, c'est une guerre très importante. Le Japon agresse l'Empire russe et va écraser les troupes de l'Empire russe sur Terre, ils ont en Mandchourie, et sur mer, en coulant la flotte russe qui arrive pour soutenir les troupes russes dans le détroit de Tsushima. Et ça va stupéfier le monde entier parce que, bon, on prenait le Japon comme un petit pays exotique, renfermé sur lui-même, pas très moderne. Et là, cela signifie que le Japon a imité les pays industriels les plus modernes à l'époque et est capable d'avoir une armée terrestre et une armée navale, une flotte extrêmement performante, capable non seulement de défendre ses intérêts, mais d'attaquer des puissances qui s'approchent de son archipel. Donc c'est une petite révolution, là, au début du XXe siècle, dans la géopolitique. En Europe, quelque chose d'important, c'est l'entente cordiale. L'entente cordiale, après des siècles de méfiance, de rivalité, sinon de guerre, est proclamée l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. L'entente cordiale, alors ce n'est pas un traité, mais pour l'opinion française, c'est très sécurisant, parce que nous sommes déjà alliés avec l'Empire russe, et être amis, c'est-à-dire ne plus avoir de risques avec l'Empire britannique, ça signifie la maîtrise des mers et des océans avec la flotte française, ça signifie des liens économiques qui existent déjà, mais qui vont se renforcer, et surtout, ça signifie encadrer l'Empire allemand qui est considéré comme menaçant. On est 10 ans avant, sans le savoir, avant la Première Guerre mondiale. Donc, ça oblige l'Empire allemand à se prémunir sur deux fronts, ce qui est toujours plus favorable pour les parties qui se sentent menacées. Et alors, c'est un engouement en France. La haute société française va voir le derby d'Epsom, envoie les rejetons les plus fortunés étudier à Oxford ou à Cambridge, et la chanteuse à la mode, mais elle va l'être encore pendant 30 ans, Miss Tinguette va chanter à Paris les petites femmes de Londres. Voilà. Autrement, c'est la réélection aux États-Unis du président Roosevelt, Theodore Roosevelt. Son parent qui sera élu en 1932. Bon, au niveau sportif, c'est le deuxième Tour de France, pendant l'été, bien sûr, qui sera gagné par Maurice Garin. On en parle, oui, parce qu'il y a une presse qui s'intéresse beaucoup, précisant que la radio n'existe pas. Radio Tour Eiffel qui émettra dans le nord de la France, c'est en 1919-1920. Là, on est en 1904. Donc, l'information se fait par la presse. Au niveau sportif, ce sont les Jeux Olympiques de Saint-Louis. On en parle modérément en France à l'époque, d'abord parce qu'il n'y a que 11 pays qui participent, et pour sourire, c'est la seule fois dans l'histoire des Jeux Olympiques où il y a l'épreuve du saut du tonneau. Bon, je ne sais pas si ça a été filmé, peut-être. Voilà. De façon original sur le plan technologique, c'est l'achèvement du Transsibérien, cette voie ferrée qui va de Moscou jusqu'à l'océan Pacifique. On peut faire donc Paris-Vladivostok en train pour la première fois. Il faut 21 jours et il faut de toute façon changer à la frontière de l'Empire russe parce que les écartements ne sont pas les mêmes, l'écartement des rails. Autrement, ce sont quelques inventions, quelques recherches importantes. Le prix Nobel de médecine est remis à Pavlov. Alors, quand on était au lycée ou au collège, on nous apprenait les réflexes conditionnés du chercheur russe Pavlov, qui a été donc distingué cette année-là. Aux États-Unis, les frères Wright réalisent le premier circuit fermé dans l'air par avion. Ce sont les balbutiements, vraiment les balbutiements de l'aviation. Il faudra attendre encore 5 ans pour qu'on parle de Blériot et d'autres casse-cou, entre guillemets, pour l'époque. Là, ce sont vraiment les balbutiements de l'aviation. Le prix Nobel de littérature, et on va passer à la culture, est remis à Frédéric Mistral. Alors, c'est très intéressant parce que le comité Nobel, donc en Suède, remet le prix Nobel de littérature à un écrivain pour son écriture en provençal ou en occitan, mais pas en français. Et Frédéric Mistral, qui est déjà célèbre, va l'être ô combien, parce qu'on est dans les tout premiers prix Nobel. Au niveau culturel, c'est l'exposition Monet à Paris, les grands peintres, l'exposition Matisse, c'est le premier numéro du quotidien L'Humanité, dirigé par Jean Jaurès, précisant qu'à l'époque et jusqu'en 1919, l'Humanité est socialiste, elle sera communiste après. Dans le domaine de la musique, Puccini qui crée Madame Butterfly et qui va faire pleurer plusieurs générations de mélomanes. Et justement, ça se passe au Japon, avec des airs absolument sublimes. Alors, quelques disparitions, c'est le compositeur tchèque Dvorak, qui meurt à 62 ans, qui est mondialement connu, la symphonie du Nouveau Monde, mais pas seulement. Et c'est également la disparition à 44 ans du dramaturge Anton Tchekhov, un dramaturge russe. Quelques naissances, alors là on a l'embarras du choix, puisqu'on sait, 117 ans après, les personnes qui vont devenir célèbres. Au niveau sportif, c'est le boxeur Till, c'est le tennisman Lacoste, qui est toujours popularisé, entre guillemets, par une célèbre marque de prêt-à-porter. Dans le domaine du cinéma, c'est la naissance de Peter Lorre, de Montgomery, de Johnny Weissmuller, de Cary Grant, dans un domaine voisin de Bill Crosby. C'est aussi Glenn Miller dans la chanson, on sent des naissances. Dans la peinture, c'est la naissance de Salvador Dali et de Hans Hartung. Et dans le domaine de la littérature, c'est la naissance de Pablo Neruda et de Graham Greene. Alors, lorsque l'on pense à des années anciennes, on se demande souvent, mais qu'est-ce que les gens écoutaient comme chansons ? Je répète, il n'y a pas de radio. Donc, il y a des chanteurs sur les marchés, c'est l'héritage des colporteurs, mais il y a déjà des disques avec des phonos, certes fort anciens, lorsqu'on les trouve dans des brocantes maintenant, mais on peut acheter certains. Au niveau de la chanson, ce qui est à la mode, c'est le cabaret qui lance des chanteurs. C'est ce qu'on appelle le Cafconce. Le Cafconce. Alors, le chanteur le plus célèbre, il est toulonnais. Il est né et il est mort à Toulon. Il est né en 1872, il est mort en 1941. Il va créer un millier de chansons au cours de sa vie. Il est extrêmement célèbre. D'ailleurs, le grand stade du centre de Toulon porte son nom. Il a une gestuelle, disons, très méditerranéenne. Et il s'est rendu célèbre en 1899 avec « Viens Poupoule », qui va être reprise pendant des décennies. C'est Félix Mayol, M-A-Y-O-L, à ne pas confondre avec le sculpteur Mayol, à une orthographe différente. Il n'est pas de la Provence. Alors en 1904, la chanson emblématique de Félix Mayol, c'est la Matchiche. Bon, lorsqu'on les réentend, soit enregistré à l'époque, évidemment, ça grince et ça gratte beaucoup, soit enregistré par la suite, on est un peu effaré, sinon effondré, par la pauvreté culturelle. Sinon, une certaine misogynie ambiante dans pas mal de chansons de l'époque. C'est aussi le style comique troupier. Voilà, donc je préférerais que nous écoutions, c'était chanté par Bach, tout à fait à la fin de 1903, donc début 1904, sur les paroles de Bousquet, c'est « La caissière du grand café ». Et peut-être que le refrain vous dira quelque chose, tout au moins au niveau du rythme et de la mélodie. Ben, nous sommes partis dans un autre monde, c'est quand même très loin en arrière, avant les deux guerres mondiales, ce que bien des historiens appellent la belle époque, mais qui n'était belle que pour un très faible pourcentage dans toute l'Europe de la population. Ben, on se retrouvera dans les semaines qui suivent avec cette habitude des années anniversaires, mais cette fois des années décennales, 1921, 31, 41, etc. Encore un bon début d'année.
Merci beaucoup, Jean. Et puis, ben, on souhaite encore de belles années à ces deux femmes. On leur souhaite
de survivre à la pandémie, parce qu'au fond, elles sont dans des EHPAD qui ne sont pas totalement enfermées, évidemment, hein, même si les visites sont interdites, que ce soit au Japon ou en France. Mais il y a bien du personnel soignant qui entre et sort. Hein.
Oui.
Plus peut-être la nourriture. Mais aux dernières nouvelles, elles sont en pleine forme pour leur âge.
Waouh.
Et lorsque j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, elle m'a chanté une chanson et on a causé comme si de rien n'était. Alors elle y voit moins, elle n'entend pas beaucoup, elle ne marche pas facilement, mais elle a beaucoup d'optimisme. Eh ben, c'est fantastique.
Eh ben, super, ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
La longtemps qu'après la soupe du soir, le tulban où que je vais m'asseoir, je mange une femme une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis en reluquant ses appâts, tu remarques des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a trois. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, de dedans la rue on peut la voir, qu'elle est assise à son comptoir. Elle a toujours le sourire, qu'on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Entourée d'un tas de verres à pied, bien tranquille derrière son encrier, elle est dans la caisse, la caissière, ça fait qu'on n'en voit que la moitié. Et moi que déjà je l'aime tant, si tant mieux qu'on cache le restant, car si je la voyais tout entière, je deviendrais fou complètement. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, et quand j'étais sous pour mieux la voir, je rentre prendre un café noir, en faisant fondre mon sucre, pendant deux, trois heures je la reluque, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café.